Cette semaine à l'émission, on reçoit Alex Lassalle, l'agent de pastoral le moins fleur bleue au pays. Et Brigitte Bédard nous parle de la vie de château de son amie Thérèse. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode sur les grandes étapes de la vie spirituelle. Et je suis bien accompagné pour cet itinéraire, hein, pour ce grand pèlerinage qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas, non, je vous regarde les deux. Là. Brigitte Bédard, bonjour.
Salut Antoine.
On fait un bout de chemin ensemble aujourd'hui.
Oui.
Ah, c'est beau ça.
Oui.
On va cheminer.
Dans le château intérieur de Thérèse d'Avila.
C'est un peu mystique ça, non?
Très mystique. Ah oui, c'est de la mystique.
C'est un peu flyé.
Mystique 101 aujourd'hui.
Bon, je vais prendre des notes parce que moi, c'est pas du tout ma tasse de thé, mais très disposé là, à prendre là-dessus.
Mais oui, c'est
là.
Facile.
Ah, c'est facile.
Mais oui.
Niaise-moi donc. Simon Lessard, bonjour.
Salut Antoine.
Et oui, faisons un peu quelques pas ensemble sur le chemin de la vie aujourd'hui, dans les grandes étapes de la vie spirituelle. Oui,
bien la vie, c'est comme un pèlerinage. Avez-vous déjà fait un grand pèlerinage, vous?
Oui.
Hein?
En tout cas, moi, j'ai fait 3 fois Compostelle.
Trois fois?
Quand même, ouais. Tu n'avais pas compris
Espagne,
les deux premières fois.
En Pologne, non, c'est ça, j'ai pas compris. Puis non, c'est vrai, quand on Compostelle ou n'importe quel grand pèlerinage, c'est comme la vie, c'est plein d'étapes. C'est-à-dire que ça ne suffit pas d'avoir un but final. Il faut vraiment découper notre marche en des moyennes, des petites étapes pour garder l'espérance. Puis il y a toutes sortes d'états intérieurs qu'on traverse, des découragements, puis on a besoin des autres. J'ai l'impression que la vie humaine, la vie spirituelle, ça fonctionne à peu près pareil.
Quelle belle analogie. Toi, Brigitte, t'es une grande voyageuse aussi.
Ben, j'ai fait beaucoup de voyages, mais j'ai jamais fait de Compostelle. C'est too much pour moi. Là. Moi, j'ai fait les JMJ l'année passée, puis j'étais fall ball.
Non, Brigitte, j'ai vu des gens là, bien plus vieux que toi faire Compostelle, tu serais capable.
Boy. Non, c'est sûr. Ça m'intéresse pas. Non, moi, mon voyage, je le fais de façon intérieure. Puis, c'est ça, Thérèse d'Avila m'a comme amenée là-dedans alors que j'étais en crise existentielle et spirituelle en 2001. Ça veut dire 10 ans après ma conversion. Là, il s'est passé comme de quoi, là, j'ai eu un clash. Ça m'a aidé, mais c'est ça. Moi, c'est intérieur, le pèlerinage.
Toi, c'est intérieur.
Ben, ça coûte moins cher, c'est quand même le fun.
Peut-être finir par y arriver à l'intériorité.
On travaille là-dessus. C'est bon. Cette semaine aussi, à l'émission, on a un agent de pastoral qui est à la paroisse Saint-Bonaventure à Montréal. Il sévit aussi depuis des années sur les pages web du Verbe avec des textes à haute teneur en vitriol et en espérance chrétienne. Et oui, ça se peut dans la même personne. Accueillons Alex Lassalle. Alex Lassalle, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde.
Bonjour Antoine, merci de m'accueillir.
Et ça fait vraiment plaisir. Collaborateur régulier au Verbe Média depuis une bonne dizaine d'années, c'est-à-dire depuis que le Verbe est Verbe à peu près. Là.
En effet.
Tu es aussi agent de pastoral dans la grande région de Montréal depuis encore plus longtemps. Tu as pu réaliser au fil de tes rencontres, de tes lectures, de ta job, bref, qu'il y a des moments propices dans chaque parcours de vie lors desquels émergent des questions existentielles, des questions spirituelles. Comment on traite tout ça? Comment on aborde toutes ces questions-là quand on y est confronté d'une manière presque quotidienne?
D'abord, j'imagine qu'on les aborde pour soi, en tout cas, ou pour ses proches. On voit il y a des moments, des moments importants, des moments de transition dans la vie, que ce soit par exemple, le passage de la jeunesse à la vie adulte ou de la vie active à la retraite ou... de l'état de santé à l'état de maladie ou de l'état d'ignorance à l'état de connaissance. Il y a toutes sortes de
De l'état de célibat à l'état de mariage.
En voilà un autre. Voilà. Alors, on est d'abord soi-même confronté à ça, je pense. On assume, comme dirait saint Paul, chacun le poids de son existence. Puis on voit aussi, quand on est en église, on a évidemment le témoignage de ses frères et sœurs. On voit ce que nos gens de notre famille vivent, nos amis. Puis on s'aperçoit effectivement que dans ces occasions-là, Dieu peut se manifester. Hein. Ce sont des moments propices à l'action de la grâce. Mais avant de parler de l'action de la grâce, il faut d'abord peut-être parler simplement de l'effort humain pour approfondir la compréhension de son expérience humaine, l'effort humain pour aboutir à certaines conclusions. Donc,
Parce qu'avant d'arriver aux questions plus surnaturelles, disons, là, on parle de grâce de Dieu. C'est, pour bien des gens qui nous écoutent, peut-être que ça ne fait pas partie de leur prisme. Il y a des trucs très naturels. Hein. On parlait d'étape de la vie. Il y a quelque chose de l'expérience proprement humaine, voilà, matérielle.
Moi, j'aime mettre ça sous le vocable de philosophique par rapport à théologique. Uh-huh. Donc, c'est simplement l'expérience humaine, l'expérience de nos émotions, l'expérience de nos relations, l'expérience de nos épreuves, l'expérience de nos réussites. Et se joue à chaque fois quelque chose de notre humanité. Et ceci dit, notre humanité, je pense qu'elle est elle-même, elle a une inclination à la transcendance. Il y a quelque chose dans notre humanité qui est inachevé, qui appelle autre chose. Et cette autre chose, donc, je pense qu'il y a des moments propices dans la vie pour le découvrir, le rencontrer, l'effleurer ou tomber en plein dedans. Mm-hmm. En tout cas, et c'est cette autre chose, appelons-le Dieu, disons, pour faire court.
Et si on se parle de tout ça aujourd'hui, Alex Lassalle, c'est aussi peut-être parce qu'il y a des... J'aime pas le mot pattern, mais il y a des schémas où il y a des patrons là, qui se répètent d'une vie à l'autre. On a l'impression qu'on est donc bien spéciaux. Hein? Simon, t'es quelqu'un de particulièrement spécial, on le sait tous, mais et Brigitte aussi. Non, mais on a tous notre individualité, mm-hmm. moi aussi.
Hein? On est tous uniques.
Personne ne peut me comprendre dans tout ce que je vis, les étapes, les épreuves. Mais quand on prend un peu d'auteur, on est à peu près tous faits de la même pâte. Là. Il y a des grandes étapes ou des grandes expériences qui traversent toute vie humaine. Je pense à la vie, la mort, l'amour, personne n'y échappe.
Voilà, on est soi-même face à ces choses. On peut être un peu enfermé dans sa propre expérience, dans sa propre subjectivité, mais par ailleurs, très vite, on s'aperçoit que finalement, dans l'intersubjectivité, dans les rapports avec les autres, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres qui sont passés par là. Et si on élargit le spectre au-delà même de notre temps, ben tous ceux qui ont écrit, qui nous ont laissé des traces de leur expérience humaine, personnelle, philosophique, amoureuse, intellectuelle, spirituelle, tout ça est là comme patrimoine pour nous, effectivement, nous dire qu'il y a d'une certaine façon des étapes qui sont du domaine de l'universel, dans le fond, qui transcendent les individus, les nations, les cultures pour vraiment nous faire voir finalement le cœur de la condition humaine.
Ouais.
Voilà.
Quelle est-elle?
Le cœur de la condition humaine.
Quel est-il, le cœur, ouais?
Ben, peut-être pour comprendre le cœur de la condition humaine.
Vous avez 3 minutes.
J'ai 3 minutes, mais ça va prendre 3 secondes, en fait, pas de problème. Non, c'est justement dans cette espèce de tentative d'un peu atteindre ce cœur, puis ensuite de ça être en mesure peut-être de comprendre mieux chaque personne. Mm-hmm. Je me suis bricolé ma propre petite définition de l'homme. Alors, c'est vraiment un bricolage très amateur, mais pour ça, je me suis inspiré de lectures d'Hubert Reeves puis d'Albert Jacquard qui avait réfléchi sur l'évolution puis la complexification de la matière dans l'univers. Donc, ça a l'air compliqué, mais non. Si on lit un beau petit livre comme « Poussière d'étoiles », par exemple, d'Hubert Reeves, on voit, bon, il traite justement de ce sujet, comment la matière s'est élaborée, complexifiée, puis comment il y a eu des sauts qualitatifs dans l'être à partir de la matière inerte jusqu'au vivant et du vivant jusqu'au conscient. Donc, si on prend déjà ces 3 étapes-là, on est donc des êtres, hein, on est des êtres humains, des êtres vivants. Mm-hmm. Donc, on a ces 2 dimensions en nous. Et conscient, donc une particularité, jusqu'à date, en tout cas dans l'univers, on est les seuls dotés de cette faculté d'intelligence. Et je pense qu'il faut ajouter un niveau supplémentaire. Je pense qu'on est des êtres vivants, conscients et aimants. Je pense qu'on touche au cœur de l'humanité quand on arrive à cette dimension aimante de l'homme, dans le fond, qui est appelée au don de soi. Donc, je pense que c'est là où ça se joue, là où l'humanité culmine, d'une certaine façon. Voilà. Donc, et à chacun de ces étages, on pourrait dire, on peut associer, je pense, on parlait d'expériences qui peuvent nous rapprocher de Dieu, là, ce que j'ai pompeusement appelé des seuils anthropologiques de la foi.
Donc, rien de moins.
Donc, des seuils, donc, c'est quelque chose qui nous amène à l'orée de, aux portes de la dimension spirituelle et divine de l'existence. Donc, au niveau de l'être, on peut penser à certains. Du fait qu'on est, simple fait qu'on est, on peut être confronté à des expériences qui vont nous amener à réfléchir sur le sens de ce que c'est être. Du fait qu'on est des êtres vivants aussi, du fait qu'on est des êtres vivants conscients, etc.
Par exemple,
si on prend par exemple le fait d'être tout simplement « je suis », mais apparemment que je ne serai pas très longtemps. C'est-à-dire que je vais mourir.
Puis tu n'as pas toujours été non plus.
Et je n'en ai pas toujours été non plus. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça me confronte finalement à mon humilité fondamentale. Hein? Et je pense que ça, c'est probablement un des seuils principaux de toute expérience religieuse. En fait. Toutes les grandes religions nous resituent dans cette position-là de finitude, de petitesse, d'insuffisance foncière qui fait qu'on doit, à un moment donné, se poser la question d'où viens-je et qui suis-je et où vais-je?
Et Adam dans la Genèse, c'est l'homme, c'est l'humus.
C'est l'humus. C'est la terre, donc, il y a quelque chose de cette fragilité ontologique, un autre gros mot que j'aime plugger de temps en temps, donc cette fragilité d'être qui est inscrite en nous et qui nous dit finalement que nous ne sommes pas le centre de tout. Et que si nous voulons peut-être perdurer dans l'être, il y a peut-être une posture à adopter, un seuil à franchir. Voilà.
Tu parlais d'Hubert Reeve tout à l'heure, qui était un astronome québécois. Et je trouve que quand on se regarde soi-même par rapport à l'univers, autant du point de vue de l'espace que du temps, on est tellement rien. On est moins qu'un claquement de doigts dans l'histoire connue de l'univers. On est moins qu'un grain de sable.
Fais-tu pousser par
donc,
le vent?
Ça pose une question. Si je suis si rien au niveau du temps et de l'espace, est-ce que je suis plus autrement?
Voilà, je trouve que cette remarque-là m'amène à faire une distinction supplémentaire en termes de seuil. Là. Il y a des seuils qui sont des en-deçà de notre humanité. Donc, on voit que du fait qu'on est mortel, limité, il y a quelque chose qui va nous amener à moins que ce que l'on est présentement. D'ailleurs, il y a des seuils qu'on pourrait dire positifs ou des au-delà de ce que l'on est. Et je pense que la contemplation du ciel étoilé peut-être est quelque chose de cet ordre-là. D'abord, ça peut effectivement nous mettre dans une position d'extrême humilité, mais en même temps, je pense que quelqu'un qui a pris le temps de regarder le ciel étoilé a pu aussi vivre l'expérience d'une sorte de dilatation intérieure devant cette immensité. Puis intuitivement, peut-être qu'on peut percevoir que il y a quelque chose dans notre âme qui est proportionné à cette immensité.
Et la joie d'y participer.
Voilà.
Et la joie d'y participer.
Donc, c'est un seuil, mais là, on pourrait dire un seuil qui nous porte vers un surcroît d'être plutôt que vers une perte ou une misère. Donc, et on oscille entre ces différents types de seuils, des seuils de la misère, des seuils de l'extase.
Pascal disait que l'univers nous contient, mais que nous, par notre pensée, on peut contenir l'univers.
Je suis un fervent pascalien.
Alex, on parle de cette dimension de l'être. Il y a aussi le vivant. Tu disais,
effectivement.
Nous sommes vivants. Qu'est-ce que ça implique comme type de seuil, le fait d'être vivant?
Le vivant, encore là, c'est mon petit bricolage philosophique tiré de lecture dont je ne peux même plus faire le compte. C'est une sorte de melting pot dans mon cerveau. Là. Mais le vivant a comme caractéristique, peut-être une des caractéristiques principales, c'est d'être engagé dans une trajectoire existentielle de la naissance vers la croissance, vers une certaine puissance d'être, avant d'arriver à une sorte, si on veut continuer la poésie, une certaine dégénérescence et une sorte d'obsolescence finale. Mais dans cette ascension puis dans cette descente, il y a aussi donc des expériences d'abondance ou de pauvreté qui peuvent favoriser un questionnement existentiel puis nous amener à voir au-delà de l'expérience immédiate de la vie quotidienne. Quand on parle de pauvreté, ça peut être une pauvreté physique au sens matériel, hein, la pauvreté, le manque de ressources vitales pour assurer la subsistance au quotidien. Ça peut être l'abondance aussi. Il y a une sorte d'émerveillement. Moi, la dernière fois que je suis allé aux pommes, regardez les pommiers là, qui ploient sous le poids de ces fruits surabondants. Puis après ça, on a trouvé les moyens de voir des gens qui crèvent de faim. C'est quand même assez hallucinant. Donc, ça, c'est un premier niveau, au niveau des besoins physiques, mais je pense qu'il y a des besoins d'accomplissement humain, hein, des gens qui ont une quête personnelle pour savoir quels sont leurs talents, où ils peuvent servir dans la vie, comment ils peuvent être utiles aux autres. Et encore là, soit que dans l'accomplissement de ce qu'on est ou dans l'échec de cette recherche-là, ça peut être des occasions d'émerveillement ou d'apitoiement et de tristesse. Puis je pense que le troisième niveau du vivant, en tout cas, le vivant, c'est un vivant qui est quand même appelé à une vie qui n'est pas simplement matérielle, biologique, mais aussi une vie spirituelle, vie de la grâce. Il ne faut pas oublier ce chapitre-là dans l'équation. Puis là, c'est parce que ça me fait penser, moi, des gens qui ont aussi vécu des expériences de seuil au sens où ils avaient tout, en termes matériels, ils avaient tout. en termes d'accomplissement personnel, ils avaient tout, puis ils continuaient à manquer quelque chose.
Mais moi, c'est exactement mon expérience. Ouais. Je me suis converti parce que tout allait bien dans ma vie. Mm-hmm. Il y en a que c'est l'inverse, là. C'est quand tu touches le fond du baril.
Moi.
Ouais, toi. Bon,
mais tout allait mal. Tout allait mal dans ma vie.
Mais non, mais moi, ça veut dire que tu sais, ça allait bien en amitié, ça allait bien dans mes études, dans mes projets, mes voyages. Mais j'ai senti qu'il manquait peut-être que j'avais une soif d'infiniment plus, mais que selon les critères de la télévision, j'aurais dû être comblé. Et là, je me suis mis à chercher. Donc, c'est sûr qu'il y a une expérience de manque, mais une expérience de manque qui jaillit d'une prétendue abondance.
Ben, une certaine satisfaction à un niveau, je pense qu'on pourrait penser à la pyramide de Maslow, peut-être, là, où donc les besoins fondamentaux sont comblés, puis à un moment donné, ben, ça nous rend plus sensibles à d'autres besoins là, qui relèvent peut-être effectivement plus de la recherche de sens, de la compréhension de notre vocation profonde, au-delà de notre métier. Je pense que c'est l'autre dimension aussi. Je parlais des étages là, de l'être, là, être vivant et conscient. À ce niveau-là, effectivement, on peut, une fois que nos besoins sont assouvis, on a du temps pour philosopher un peu, pour se poser la question du sens de ce qu'on est, du sens de la vie. Et donc, la recherche de la vérité à ce moment-là peut être à la fois dans l'expérience de la carence, donc dans l'expérience de l'absence de sens, face à peut-être une absurdité dont le monde essaie de nous convaincre. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans l'absurdité de l'existence? Est-ce qu'il y a autre chose que cette absurdité? Puis donc, par le chemin de la vérité, puis en fait, les trois fameux transcendentaux de Platon, le bien, le beau, le vrai, par la beauté de la nature, je pense qu'on est, l'âme est élevée, ou spontanément aussi, l'âme peut être accablée par la laideur du monde, puis se dire, y a-t-il quelque chose d'autre? Hein? C'est toujours est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ce monde? Surtout que c'est ça, il est voué à la désintégration inévitable. Donc le bien aussi, je pense au témoignage du bien. Quand quelqu'un qui fait le bien va probablement répondre à l'aspiration des cœurs aussi simplement par le témoignage de vie. On va le voir. Je me rappelle de quelqu'un lui, qui avait vu le film sur Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul, ben, la personne qui avait n'était pas croyante, n'était pas chrétienne. Puis elle a perçu quelque chose. Son cœur avait soif de ce bien. Elle l'a vu dans la vie de l'autre. Il y avait un manque. Puis là, il y avait une abondance. Puis elle est passée de l'un à l'autre par la recherche du bien. Donc, ça peut être pour soi aussi. Je pense qu'un autre seuil, c'est sa propre misère morale quand on constate qu'on n'est pas bien avec soi-même parce qu'on n'a pas bien usé de soi-même, que ce soit de son corps, de son intelligence. Et là, on est aspiré à autre chose. Puis si on veut finir les étages, là, donc à un être vivant, conscient et aimant, je pense que c'est là que se jouent beaucoup de choses pour bien des gens. Puis on le voit, je pense qu'on le voit en Église aussi. Ce qu'offre l'Église en particulier, c'est une expérience d'amitié. Je pense qu'une des choses que l'Église peut offrir au monde, si elle répond bien à son appel, d'être, si chacun répond bien à l'appel d'être fils et fille de Dieu, on va offrir aux autres autour de nous des bons frères et des bonnes sœurs en Jésus-Christ. Et donc, dans cette voie de l'amitié, qui peut-être va être la première marche vers une vraie amitié avec Dieu, si on est nous-mêmes bienveillants avec les gens autour de nous, peut-être que ça va favoriser la rencontre avec Dieu. On a dans l'expérience de la rencontre avec l'ami, déjà une sorte de saut vers une sorte de transcendance. On sort de soi, de l'immanence du moi pour aller vers la transcendance de l'autre. Puis évidemment, ça, je pense que ça se vit aussi encore peut-être plus pleinement dans la vie conjugale, où là, la sortie de soi est manifeste, l'appel à une sortie de soi est manifeste et le manque aussi se fait très, très fortement sentir. Je pense à notre époque aussi, je pense qu'il y a beaucoup de souffrance liée à cette absence de vie conjugale.
C'est solide. 24 heures sur 24 quasiment.
Et là, une fois que c'est engagé, c'est clair, là, c'est sur la, on est sur la pente ascendante du don.
C'est ça.
Voilà. Peut-être l'autre moment où les gens peuvent se poser des questions, des moments qui deviennent donc des seuils favorables à une rencontre avec Dieu, si on veut compléter la triade, je pense, relationnelle importante, là, après l'amitié, l'amour, il y a la parentalité. Hein, quand on met quelqu'un au monde... on est face à des décisions, on est face à des choix, on est face à une relecture peut-être du chemin qu'on a fait, puis du chemin qu'on souhaite faire à nos enfants pour la durée de notre travail de parents.
On est confronté de répondre aux questions métaphysiques que nous posent les enfants à tout bout de champ.
Clairement, ça? Effectivement, ce sont de grands philosophes, les enfants. Ce sont vraiment les meilleurs philosophes.
Grands contemplatifs aussi.
Aussi, ils ont le loisir, c'est ça, de la contemplation. Ils en profitent amplement.
Souvent un bullshit à mettre beaucoup mieux exécuté que bien des adultes. C'est-à-dire, ils se laissent pas bourrer par toutes sortes d'incohérences et ils nous questionnent sur nos propres incohérences, sur nos pauvretés, nos limites, nos
contradictions. Et à ce moment-là, voilà, ils nous mettent encore en chemin. Donc, on a une occasion supplémentaire de franchir, de faire le passage. Puis, comme je suis catholique, j'aimerais ça faire une petite plug pour Jésus-Christ. Hein? Le passage des passages, c'est Jésus-Christ. Hein? L'humanité de Jésus-Christ, c'est dans la théologie, c'est la voie d'accès au Père. Hein? C'est dans son humanité que le Christ a voulu nous donner la clé d'accès au Père. Donc, ça pourrait être pour une autre chronique.
Mais le passage de Jésus-Christ, c'est aussi un autre seuil, celui de la mort.
Mm. Ben, il y a évidemment la Pâque du Christ qui passe par la descente, l'annihilation.
Mais le deuil, c'est une expérience où souvent les gens vont se reposer des grandes questions existentielles aussi.
La mort, c'est ça. La mort, notre propre finitude, hein, comme on le disait au début, ou la mort de nos proches, clairement. Ce sont des occasions où on est invité à se questionner sur ce qui, finalement, constitue le véritable fondement de ce que l'on est, donc de notre être. C'est quoi la pierre d'assise essentielle qui va faire que, finalement, même si tout s'en va, non, finalement, l'essentiel reste.
Voilà. Alex Lassalle, est-ce que ça peut arriver que... À un de ces seuils-là de la vie, là, on parle de la mort ou une maladie ou une séparation, un moment plus difficile ou un moment plus joyeux aussi, ouais. L'arrivée d'un enfant. Ouais. Toute cette idée-là qu'on se fait de Dieu ou même des gens qui auraient la foi, qui auraient une vie impliquée dans l'Église, arriver à ces seuils-là, décide de sortir plutôt que
clairement,
de rentrer.
Clairement, une porte, disons, ça peut être empruntée dans les deux sens. Alors, quelqu'un qui aurait déjà un certain degré d'engagement dans le spirituel, une vie religieuse active, pourrait être ébranlé. Et cet ébranlement, c'est ça, il peut avoir un effet dans les deux sens. Il peut peut-être nous engager à aller chercher un socle plus solide, mais si malheureusement on ne trouve pas de socle plus solide, on s'aperçoit que celui sur lequel on est s'effrite, puis on dit ça valait pas de là, puis on dit je balance tout ça par-dessus bord et j'abandonne le chemin. Mais là, ça sera peut-être à ceux des frères et sœurs autour qui voient la personne ramée à lui dire peut-être non, finalement oui, c'est solide la croix, mais ça fait mal. Je ne sais pas, non, quelque chose du genre. Il y a cette espèce de mystère où c'est souvent par la douleur que ça passe. Mais
il faut s'appuyer sur les Écritures aussi, je pense, beaucoup dans des moments comme ça, en plus des frères et de l'amitié. Là.
C'est une des choses, semble-t-il, qui ne passe pas. Hein. mes paroles ne passeront pas. Alors, si c'est notre préoccupation de trouver un socle solide, je pense que j'irai voir de ce côté-là, effectivement.
Brigitte, est-ce qu'il y a des seuils dans ta vie dont tu te souviens des moments clés là, où il y a eu des grands questionnements existentiels?
Oh boy! Oui, il y en a eu plusieurs, je dirais. Mais je me retrouve beaucoup dans ce qui est dit, les quatre étapes. Là, mais oui, c'est sûr, il y a eu l'époque où j'ai arrêté de consommer. J'avais 22 ans. Toute ma vie, il n'y a rien qui allait bien. Moi, c'est ça qui m'amène à changer. C'est quand rien ne va plus. Puis après ça, j'ai passé comme 10 ans comme ça. Puis là, j'ai eu une autre crise dans ma vie. Puis là, j'ai vécu une conversion. Il y en a qui appellent ça des conversions religieuses, là, mais j'ai fait une rencontre, la rencontre de Jésus que je me suis rendu compte que c'était vraiment une personne vivante. Là. Mm. Et ça aussi, ça a été une crise dans ma vie où il n'y a plus rien qui allait bien. Tu sais, j'avais un mode de vie qui ne me satisfaisait pas. Je voulais vivre une autre vie, mais je ne le savais pas. Puis tu vois, après ça, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, tout allait bien.
Ben oui, bien sûr.
Le rêve, tout. Puis là, bang, une autre crise spirituelle, je dirais, en 2011. Puis après ça, une crise dans le couple en 2017. Moi, ma vie, c'est semée de petites crises, mais qui m'amènent justement à transformer toute ma vie, tu sais. Puis je dirais que dernièrement, avec la pandémie, puis tout ça, j'ai vécu vraiment une crise intérieure, mais une conversion. Moi, une crise, c'est vraiment pour se convertir. Il y a quelque chose qui doit changer à l'intérieur parce que je suis pas bien, tu sais. Donc oui, je dirais que ma vie n'est faite que de crise, mais de conversion, tu sais. Ça a toujours été pour du plus.
Simon, je te vois opiner.
Ben non, mais je trouve ça beau ce que Brigitte raconte. J'essaie de penser à mes propres crises ou conversions. Moi, au début, c'était plus l'expérience de l'absurde. Je pense que j'ai été sauvé d'un univers où on me dit « il n'y a pas de Dieu, tout vient du hasard ». Puis comme adolescent, comme étudiant à l'université, je sentais que c'est ça, l'absence de sens, là, comme on a parlé tout à l'heure. Donc d'abord, une première conversion comme intellectuelle, de recherche du sens du monde dans lequel je vis, du sens de ma vie. Puis après ça, une fois chrétien, après quelques années, une crise plus existentielle où je rencontre mes limites, ma faiblesse, ma pauvreté, et que malgré toutes mes bonnes idées, je suis pas vraiment capable d'aimer. Et là, d'entrer dans une deuxième conversion qui est plus dans l'abandon, l'acceptation du besoin de la grâce et de l'humilité beaucoup.
Ah, Thérèse Davila en parle beaucoup dans ses demeures, ces crises-là, justement.
Tu vas nous en glisser un mot
vite,
un peu plus tard. Alex Lassalle, dernière question. À quoi, comme agent pastoral, tu es plus souvent confronté? Quel genre de seuil se manifeste le plus souvent autour de toi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, là, des moments qui sont des occasions propices de présenter aux gens... tu parlais de la personne de Jésus-Christ, hein, comme étant le chemin. Qu'est-ce que tu as constaté dans...
Ben, ce que je constate est proportionné à ce pourquoi je suis fait. C'est-à-dire, j'ai des yeux pour ce que je suis capable d'apporter. Hein. Souvent, ce qu'on constate un besoin, c'est parce qu'on est appelé soi-même à contribuer à le combler. Je pense, moi, c'est évidemment au niveau de l'intelligence de la foi que ça se joue. Donc, dans la recherche de sens, beaucoup... La recherche d'ensuite, quand le sens, disons, qu'est Jésus-Christ est trouvé, mais la recherche de compréhension de ce sens, parce qu'il ne cesse de s'approfondir au fur et à mesure de la vie chrétienne. Donc, tant au niveau du travail, pour dire d'évangélisation, de première annonce, qu'au niveau plus catéchétique, donc pour l'initiation de la foi, là, il y a une naissance, justement, il y a quelque chose qui cherche à naître à la fois. Puis ensuite, il ne faut pas laisser le bébé comme ça traîner, là. Il faut s'assurer de sa croissance. Mm-hmm. Donc, c'est la deuxième étape pour s'assurer que la puissance de l'esprit vienne agir dans la vie de chacun. Puis ce qui est beau avec la vie de la grâce, c'est qu'on arrête là. Il n'y a pas de dégénérescence, en tout cas. Ce n'est pas le plan. Hein? Le plan, ce n'est pas la dégénérescence, c'est la naissance, la croissance. Et vivre de la dynamis, donc de la puissance de l'esprit. Voilà.
Mmh. Donc, c'est à ça que ça d'avoir des personnes, justement, qui arrivent dans ta vie puis qui t'aident à aller plus loin, c'est essentiel. Je pense que ce travail-là de terrain, tu deals avec du monde sur le terrain, là. Ouais, t'es vraiment avec eux, là.
Des questions, c'est ça. Souvent des questions que les gens peuvent porter durant des années. On voit, je pense, pour soi-même, des fois, comment longtemps on peut porter des questions avant d'arriver vraiment à la réponse qui satisfait, puis ça nous fait sortir d'un cul-de-sac intellectuel, barre oblique, existentiel,
Pourquoi Dieu permet que mon enfant soit malade? Pourquoi Dieu permet que...
Ben, la question du mal.
Non, mais c'est ça, ça taraude bien du monde. Ça prend diverses formes, mais finalement, ça revient souvent au même truc.
Tu sais, quand j'ai vécu ma conversion, moi, j'aimais Jésus. Jésus, mais après ça, j'étais confrontée à l'Église. Oh boy! J'en ai-tu posé des questions sur l'Église? Oui, mais pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais il y avait des gens, j'étais entourée de gens extraordinaires qui ont répondu à toutes mes questions.
Faire en sorte que finalement, chacune de ces crises qu'on traverse deviennent finalement des chrysalides. Voilà.
Ah,
c'est beau, ça.
C'est drôle comme on est l'inverse, wow. Brigitte. Parce que moi, c'est, je tombe en amour avec l'Église. Puis après ça, il y avait Jésus dans l'Église. Je trouvais ça donc quétaine, Jésus. Il a fallu que j'apprenne à avoir une relation puis à aimer Jésus.
C'est pour ça que je t'aime. C'est ça.
Ils se sont croisés. Se sont croisés sur le chemin.
C'est donc bien cute. Alex, la salle collaborateur régulier au Vert Média, agent de pastoral dans la paroisse Saint-Bonaventure à Montréal. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, on peut te lire régulièrement là, sur levert.com pour ceux qui veulent poursuivre la réflexion.
Voilà. On se retrouve sur le blog.
Yes.
On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement.
Simon Lessard, chroniqueur pour Le Verbe, bonjour.
Bonjour Antoine.
On discute aujourd'hui des étapes de la vie spirituelle. Mm-hmm. On n'est pas les premiers à avoir réfléchi à ça.
Non,
Alex
Lassalle,
il est bien intelligent, là, mais ce n'est pas le premier à s'être penché là-dessus. Avant lui, entre autres, hein, il y a eu un philosophe qui s'appelle Kierkegaard. Et tu as décidé d'aller voir de ce côté-là pour ta chronique d'aujourd'hui.
Oui, Søren Kierkegaard, qui est un philosophe danois, qui était protestant, théologien aussi, poète. Il a vécu au début du 19e siècle et on dit que c'est le père de l'existentialisme. C'est une grande école de philosophie qu'on associe plus souvent à l'athéisme comme Sartre, ouais. Camus, Simone de Beauvoir. Mais en fait, c'est plutôt Kierkegaard qui était chrétien qui en est vraiment un des premiers, un des fondateurs. Et l'existentialisme, en un mot, c'est un peu l'idée qu'on est tous des sujets libres et que c'est vraiment par nos choix qu'on définit notre vie. Donc, Kierkegaard aurait pu dire « on ne naît pas chrétien, mais on le devient
». C'est beau ça. Donc là, tu parles d'existentialisme, mais on n'est pas nécessairement obligé de te brûler au bûcher là, comme hérétique aujourd'hui. Il y a quelque chose de bon là-dedans.
Il y a une tradition chrétienne de l'existentialisme avec Gabriel Marcel, entre autres, et quelques autres.
OK, ça nous évite quelques odeurs de cramé. Super. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur les grandes étapes de la vie, Kierkegaard?
Alors, à travers tout son œuvre, Kierkegaard a développé une certaine théorie qui avait trois grandes étapes. Bon, il y a sous-divise après dans plein de petites, là, mais aujourd'hui, on va aller en gros.
Ouais.
Et ces trois grandes étapes, c'est l'étape esthétique, éthique et religieuse. Et il part du principe, comme on a dit aujourd'hui plus tôt dans l'émission, que ce qui fait que l'être humain est vraiment unique, c'est le fait qu'il y a un esprit, qu'il y a une conscience de soi à la différence des plantes, des roches, mm-hmm. et même des autres animaux. Et on peut dire que ces trois grandes étapes-là, c'est comme trois niveaux d'intériorité ou trois niveaux de conscience de soi. Et c'est comme si on avait une maison à trois étages et on a tous ces trois dimensions ou stades existentiels dans notre vie, mais on peut choisir de vivre à un étage ou l'autre de notre maison. Il y en a qui vivent très bas toute leur vie au premier étage, puis il y en a qui décident de s'élever.
Esthétique, éthique et...
religieux.
Religieux. Je pensais que ça serait comme quand on est jeune, on est beau, esthétique. Après ça, éthique, on devient un peu bon. Puis à la fin, ben, on devient pieux. C'est pas ça?
Ben, je pense que le corps joue peut-être un peu aussi. Là, qu'il y a une analogie entre le corps et l'esprit. Puis c'est peut-être pas aussi fou que tu penses.
OK. Fait qu'il y a une bonne intuition là-dedans. Commençons par la première étape, le premier stade
le premier
de
développement,
on pourrait dire.
Oui, esthétique. Donc, regarde, le compare soit aux enfants ou encore au Don Juan, les gens qui sont dans la séduction. C'est vraiment un stade de vie où on est centré sur le plaisir, la recherche de jouissance. On est au niveau du sensible, des sens. Et puis, on est dans un temps de l'instantanéité, de l'immédiateté. On n'a pas vraiment de projet. Mmh. Et puis, on n'est pas encore tout à fait dans un souci de soi. On est un peu à l'extérieur de soi-même. On pourrait dire que c'est YOLO, hein, comme disent certains adolescents. Donc, vivre
on
le moment présent sans souci, sans projet, mm-hmm. c'est ça. On est un peu le centre de notre vie. On n'a pas d'absolu. On n'est même pas vraiment tourné vers les autres. Et puis, on est dans des sortes de cycles qui reviennent sans cesse de passion, convoitise, consommation, jouissance, puis après ça, ennui, déception.
Et on recommence.
Et on recommence, hein, comme un Don Juan. Et puis finalement, on finit par tomber dans une dépression, un désespoir, un cynisme, parce qu'on voit que tout ça mène à rien, tout ça est absurde. Mm. Et la personne, l'esthéticien, à ne pas confondre avec les esthéticiennes.
Ou l'esthète.
Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça?
C'est parce que Kierkegaard, il parle d'esthéticien, en tout cas. Eh bien, ces gens-là, ils décident souvent de ne pas choisir. Ils font le choix de ne pas choisir. Ils vont dire, ah, se marier, ça va nous décevoir. Pas se marier, ça va nous décevoir. Donc, choisis pas, puis j'avance. Je vis des expériences sans trop m'engager dans rien. Et puis, c'est leur idée de la liberté. Il faut être indépendant de tout. Donc, pas de mariage, pas de carrière, pas trop d'amitié. pour faire un peu ce qu'on veut, puis finalement, ben, ils se retrouvent au contraire non pas libres, mais esclaves, dépendants de leur convoitise.
Mais il y a quand même du bon là-dedans, Simon, là, à avoir du fun dans la vie, non?
C'est... Ben, en fait, oui, c'est pas purement mauvais, c'est un premier étage d'une maison.
Okay. Faut bien commencer quelque part.
C'est les fondations, moi je fonde ma vie là-dessus.
Ce qui est bon, Antoine, c'est qu'entre autres, quand on frappe un mur, là, ce moment de désespoir, on sent que c'est absurde, ces cycles de jouissance.
Le lendemain de cuite, là, mettons.
Ouais, exactement. Ouais. Ben, là, pour la première fois, on entre en soi-même parce qu'on souffre. Et c'est à ce moment-là où on se pose des questions, où on est un peu dans le désespoir, qu'on a le premier souci de soi véritable. Et c'est là qu'on peut entrer dans le deuxième stade, qui est le stade éthique. Un peu comme dans la parabole du fils prodigue, là, ceux qui connaissent ce passage de l'Évangile de Luc, il va dilapider son argent avec des femmes, et puis à un moment donné, il atteint le bout de ce mode de vie-là, et il décide d'entrer en soi-même, dit la parole de Dieu. Et c'est là qu'il y a une première conversion qui s'opère.
Il vit à ce moment-là, dirait Alex Lassalle, un seuil. Il passe à une autre étape, qui est de questionnement plus éthique, je te vois venir.
Exactement, plus éthique. Kierkegaard va dire, l'homme éthique ou la femme éthique, ça peut être comme un juge, ça c'est plus abstrait, mais on peut penser à une femme ou un homme marié, par exemple. Donc là, on cherche une vie droite, on est plus au niveau de la raison que des passions, et puis on entre dans une autre forme de temporalité, on cherche la continuité. On en a assez là, du changement, des expériences qui changent tout le temps, on veut une stabilité, et puis on commence à avoir des projets. Donc, ce souci de soi se manifeste, c'est que notre vie devient un projet, on veut s'accomplir. Et puis là, on réalise que pour s'accomplir, il faut avoir des engagements, être dans la fidélité, de là vient le mariage, la carrière, des amitiés durables.
On ne peut pas papillonner indéfiniment.
Exactement. Mmh. Et puis c'est vraiment le sens du devoir là, qui prend le dessus, de là le nom de stade existentiel éthique. Et puis, c'est toutes nos relations qui sont le plus important à ce moment-là, puis les rôles sociaux. Et à ce moment-là, notre vision de la liberté va dire que Kierkegaard change un peu, c'est-à-dire qu'on cherche un équilibre entre une multiplicité de choix, de possibilités qui fait qu'après la volonté, c'est plus trop quoi faire. Tu sais, des fois, quand tu as trop de choix, c'est comme passé.
Devant le buffet de la vie.
Oui, exactement. Et ou à l'inverse, l'absence totale de choix d'une vie qui serait simplement mue par la nécessité, et toutes les nécessités. Donc, comment on s'en sort? Il va dire en choisissant soi-même de limiter ses choix par justement des engagements. Donc, évidemment, je choisis une femme, ben, je renonce à toutes les autres.
Normalement, oui.
Oui, mais d'une certaine manière, je découvre une nouvelle forme de liberté après dans ce choix-là, qui peut être associé à une liberté stoïcienne, là, qu'on dirait, de résignation.
Ouais, c'est une vie plate, ça, non?
Sinon? Pas tout à fait, mais c'est-à-dire qu'on accepte notre réalité telle qu'elle est. On reconnaît qu'on ne pourra pas tout changer. On accepte notre rôle dans la société. Et puis, voilà, c'est une forme de liberté. On veut tout ce qui nous arrive.
Quelque chose d'ordre de la maturité aussi. On passe, si on veut faire une analogie entre l'adolescent qui veut tout, qui tout est ouvert, à justement une vie adulte où l'horizon n'est plus infini, mais il y a des choix et des décisions qui se prennent.
Exactement. On peut être religieux, va dire Kierkegaard à ce moment-là, mais il dit la religion n'est pas encore nécessairement le centre de notre identité. Elle ne viendra pas nécessairement bouleverser notre vie qu'on a planifiée, notre projet de vie, notre vie un peu confortable ou conventionnelle.
Parlons justement du troisième stade de la vie ou des stades existentiels là, chez Kierkegaard. Le troisième stade, c'est le stade religieux, Simon.
Oui, là, c'est fascinant. La figure centrale de ce stade-là pour Kierkegaard, c'est Abraham dans le livre de la Genèse. Et on entre dans une vie, je dirais, plus abandonnée au niveau non plus des passions ou de la raison, mais vraiment de la foi. Et le temps, la temporalité de ce stade-là, c'est l'éternité. Donc, il y a quelque chose de beaucoup plus vertical et d'infini. Et je dirais qu'on passe d'avoir donc, le stade esthétique, on n'avait pas de projet. Le stade éthique, on avait un projet. Notre vie devient un projet. Et là, on passe à un nouveau stade. On n'a plus de projet personnel, mais on entre dans le projet de Dieu. Et donc aussi, même chose par rapport au souci de soi. C'est-à-dire que je passe du souci de moi au souci de Dieu, mais d'un Dieu qui, lui, se soucie de moi. Donc, c'est comme une sorte de synthèse, on pourrait dire, entre les deux premiers stades. Pourquoi Abraham? Ben, il va dire que Kierkegaard, regardez là, quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique, Là, vraiment, là, Abraham est secoué. Il est bouleversé. C'est plus les engagements, les choix, le projet de vie que
parce lui
qu'il
y en avait un
décidé.
Projet de vie. Exactement. Il y avait un beau projet, Abraham.
Ouais. Là, Dieu vient tout foutre ça en l'air. Mm-hmm. Et là, il y a une épreuve. Il doit entrer dans une absurdité, dit Kierkegaard. Mais pas l'absurdité de l'esthéticien qui, lui, vivait sans but. Mais l'absurdité, au fond, de ne pas tout à fait comprendre le plan de Dieu sur lui. Donc, c'est une apparence d'absurdité. Ça dépasse ses propres réflexions, ses propres choix éthiques que lui aurait pu faire. Il ne peut pas comprendre et il doit entrer dans une relation de confiance. Confiance à Dieu qui va le conduire à l'espérance. Et donc, cette espérance-là, c'est putain une liberté, dit Kierkegaard, de résignation. Je n'ai pas trouvé le mot, mais je dirais qu'on pourrait dire que c'est une liberté d'abandon, une liberté d'espérance, c'est-à-dire de croire que Dieu va vraiment accomplir toutes ses promesses, mais peut-être à un niveau au-delà de ce qu'on peut imaginer. Peut-être que ça va être dans une autre vie ou d'une manière différente. Et donc, vraiment, Dieu peut rendre possible l'impossible.
Ça prend quand même un peu de garantie. Abraham, oui, il y avait une promesse, mais les gens croyants autour de moi qui font ce genre de saut-là, c'est sur la base d'expériences, de foi un peu préalable ou d'intuition ou de... Je sais pas, il y a quelque chose qui te permette de sauter quand même à ce stade-là.
Ouais, c'est pas un saut dans le vide ou dans l'absurde au sens strict.
C'est ça.
La lettre aux Hébreux nous dit qu'Abraham croyait à la résurrection des morts. Donc, s'il a accepté de faire confiance à Dieu qui lui demandait de sacrifier son fils, mais finalement, il n'a même pas eu besoin de le faire, là, ceux qui connaissent l'histoire, c'est parce qu'il savait qu'il retrouverait d'une manière certainement son fils. Et donc, sans cette foi ou cette espérance... il n'aurait pas pu avoir cette confiance-là d'obéir à ce que Dieu lui demandait.
Sinon, on entre en espèce de...
C'est une sorte de folie. Puis aussi, Abraham, il y avait eu des preuves dans sa propre vie que Dieu voulait son bien, qu'il était un Dieu bon.
Parce qu'il lui avait promis un fils qu'il lui avait donné.
C'est ça. Donc, il avait expérimenté cette relation avec Dieu aussi que...
Ouais.
Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, tu sais.
Mais le passage, Antoine, de l'éthique au religieux est intéressant. C'est que Kierkegaard va dire... Toute vie va être insatisfaisante. Qu'on le veuille ou non, on va faire des erreurs, on va faire des péchés. Même l'homme éthique là, qui essaye d'être bon, de remplir ses devoirs, il n'y arrivera jamais parfaitement. Et tout choix implique d'autres choix qu'on n'aura pas. Donc, toute vie va rester imparfaite ou incomplète. Et c'est là qu'on frappe, disons, un seuil ou un autre mur que la vie bonne ne nous semble pas satisfaisante ou suffisante. Et on entre dans une culpabilité qui dit « Mais mon projet de vie, là, je ne l'ai pas accompli. » Ma vie n'est pas aussi bonne que j'aurais espéré. Et là, il va dire, il faut en passer au stade religieux parce que dans le stade religieux, on réalise que toutes nos erreurs, tous nos mauvais choix peuvent être inclus dans un plan plus large, le plan de Dieu. Et Dieu, lui, va réutiliser même ces mauvais choix-là pour en faire quelque chose de bon. Et donc, on ne sombrera pas dans le désespoir à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a une quatrième étape, Simon, ou ça finit là?
Ben, il n'y en a pas chez Kierkegaard, mais je pense que d'une manière, si on a la foi... Le ciel, c'est le quatrième stade de l'existence. La vie en Dieu, ça, je pense que c'est l'étape ultime, sans fin, absolue, où là, vraiment, le cœur de l'homme est comblé au-delà de tout ce qu'il peut imaginer.
Simon Lessard, chroniqueur et journaliste pour Le Verbe Média, merci beaucoup.
Ça fait plaisir, Antoine.
Brigitte Bédard, journaliste pour Le Verbe Média, bonjour.
Salut Antoine.
Peu importe notre foi, peu importe qu'on adhère à une religion ou à une autre, la plupart des gens souhaitent avoir une forme de croissance spirituelle. Hein. Tout le monde veut être une bonne personne et avoir une vie spirituelle enrichissante, hein, c'est assez connu. Tout le monde veut ça. Les gens à la maison peuvent arrêter de chercher tout de suite. Tu as trouvé la technique parfaite pour devenir un grand mystique.
Moi, j'ai rien trouvé. Je suis tombée sur Thérèse, d'Avila.
Elle t'est tombée dessus.
Oui, elle m'est tombée dessus à une époque de ma vie où j'étais dans un creux spirituel. Tu sais, quand ça faisait 10 ans que j'étais chrétienne, là, mais il y avait comme quelque chose que je voulais plus. Là. J'étais comme stallée en bon québécois.
Jamais.
J'étais jamais là, puis j'ai vécu vraiment une crise où pendant 2 ans, tu sais, je me suis enlevée de Facebook, j'ai arrêté d'écrire, j'ai tout arrêté, puis j'ai fait du pain chez nous, puis des bébés, puis j'ai prié. Puis là, je suis tombée sur la lecture de Thérèse d'Avila,
C'est qui ça, Thérèse?
Bon, Thérèse Davila, écoute, c'est une docteur E de l'Église. C'est une...
L'Église a nommé des femmes docteurs. Je pensais que c'était une organisation machiste, patriarcale.
Moins qu'on pense. Ah ben. Moins qu'on pense. Quand on connaît vraiment l'Église, on se rend compte que c'est pas mal moins macho qu'on pense. Il y a des petits relents, là.
Ah ouais, bien
mais
sûr,
bon,
bien sûr.
C'est comme ça dans toutes les sphères de la société, anyway. Mais,
alors, une docteur de l'Église, ça veut dire docteur dans le sens une enseignante, quelqu'un dont l'enseignement est reconnu.
Oui, qui est allé au fond d'une doctrine en particulier et qui peut... qui est sûre, une doctrine sûre.
Solide,
qu'on peut se fier. Puis, elle est née en 1515, morte en 1582. Donc, on est à l'époque de la Renaissance, de la réforme protestante. Tu sais, c'est une époque, ça brasse pas mal.
C'est chaud en Europe, là,
c'est chaud, là, ouais. C'est ça. Et puis, elle, c'est une carmélite. Donc, et elle a réformé le Carmel, qui s'était pas mal, qui avait pris ses aises un peu, puis qui, tu sais, bon. Alors, elle a réformé, et son directeur spirituel, c'était Saint Jean de la Croix.
C'est qui, ça?
Qui est aussi, lui, un carme, et qui, lui aussi, a fait des grandes expériences mystiques. Mais pourquoi je vous parle de Thérèse Davila aujourd'hui? C'est que Thérèse, elle a vécu... Une recherche spirituelle. Elle ne voulait pas juste être une religieuse comme ça, là. Elle voulait vraiment rentrer en relation avec Dieu. Et elle écrit un livre qu'on appelle « Le château intérieur » et puis qui s'appelle aussi « Les sept demeures de la croissance spirituelle ». Et dans le fond, c'est le mysticisme. Le mysticisme occidental, on peut dire qu'il vient de Thérèse Davila et de Jean de la Croix.
Fait que le mysticisme, là, moi, je connais rien là-dedans, c'est d'être en relation...
de très haut niveau.
Très, très connecté, avec, là, oui. Avec du bon câblage, oui. Là, entre Dieu et soi-même.
Mais comme Jésus lui-même l'était.
Uh-huh.
Donc, c'est pas...
Et ça, c'est accessible pour toi, moi... Ah ouais, OK.
Voilà la bonne nouvelle.
Ben là, tu m'étonnes.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est accessible à tout le monde. C'est la sainteté.
Okay.
Alors, le but des sept demeures, c'est d'atteindre la sainteté, et c'est ce qu'on atteint à la septième demeure.
Moi, je suis toujours méfiant là, quand on me propose un programme, une recette, une technique. Me semble la foi ou la vie spirituelle, c'est plus de l'ordre de la gratuité, du don, de la grâce.
Il y a tout ça. Un n'empêche pas l'autre, okay. En fait. C'est que, oui, il y a comme une technique, mais pas vraiment. Parce que c'est vraiment Dieu qui fait tout le travail, en fait.
C'est plus des étapes que
oui,
des exercices.
C'est ça. Et c'est pas... oui, c'est des étapes. Et elle appelle ça le château intérieur. Qu'est-ce que c'est le château? C'est l'âme. Et les sept demeures, c'est des pièces dans l'âme, mais en forme de cercle concentrique.
Okay.
Donc, tout à l'heure, Alex parlait du cœur de l'être humain. Ben c'est ça. C'est que les sept demeures, c'est sept cercles concentriques et au cœur se trouve la septième demeure. C'est là qu'est Dieu, c'est là qu'est la Trinité. Donc, tu vis de la Trinité quand tu es arrivé là.
C'est la chambre à coucher du château, j'imagine?
C'est ça, le lit nuptial.
Ben ouais, c'est ça, c'est intense tout ça.
Oui, c'est très intense. Hein? Elle est
c'est la
très...
pièce la mieux gardée, j'imagine.
La pièce la mieux gardée. Puis, ça prend énormément... je dirais, de renoncement, de purification pour arriver à ça. Et c'est ce que les sept demeures, et elle-même l'a expérimenté, et elle décrit les sept demeures, qu'est-ce que c'est. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment deux grandes phases. Tu as les trois premières demeures, 1, 2, 3, qui est la vie spirituelle du débutant.
Donc, donne des exemples.
Je te donne
de première
un exemple.
Demeure.
Je vais prendre moi comme exemple.
Vas-y.
Okay? Donc, la première demeure, c'est que tu sors de la vie sans Dieu. Donc, Dieu n'existait pas dans ma vie. Et tout d'un coup, je rencontre Dieu. Là, puis là, c'est comme, « Oh mon Dieu, Dieu existe. » Là, tu ne peux plus vivre comme si Dieu n'existait pas. Là. Mm-hmm. Fait que ton âme se met en marche, mais de façon assez légère. La deuxième demeure, eh bien là, c'est difficile parce qu'il faut que tu changes plein d'affaires dans ta vie parce que tu as rencontré Dieu. Donc, vraiment, l'âme se met en marche.
Là,
des combats. On va commencer à la messe, on va commencer à les sacrements, on va commencer à faire des prières un peu vocales, là, les chapelets. T'sais, on est comme rouillés. Après, si tu rentres dans la troisième demeure où là encore, c'est encore difficile, mais... ça va un petit peu mieux, tu sais, mais tu as des fortes tentations de retourner dans ta vie d'avant. Ah. Beaucoup, beaucoup de tentations parce que c'est difficile.
C'était bien plus simple avant.
C'était bien plus simple avant. Puis tu sais, les apôtres, ils ont vécu ça, puis c'est quelque chose qu'on voit dans The Chosen très souvent. Je vais plugger The Chosen, mais on voit très souvent les disciples ils viennent décourager, là, puis ils veulent retourner à leur vie de pêcheur. Avant, c'était tellement plus simple vivre, là. On travaillait, on buvait le vendredi soir, puis voilà, la vie, c'était ça. Mm-hmm. Mais non, tu te rends compte que tu as des limites, tu as des défauts, puis... Mais t'aimes Dieu, tu sais, puis tu vois qu'il t'apporte plein de consolation aussi, tu sais. Puis, là arrive une crise. Alors, tout à l'heure, on parlait des crises, et je soupçonne Kierkegaard d'avoir lu Sainte Thérèse d'Avila.
C'est pas impossible, même s'il était protestant.
Dans tout ce que tu disais tout à l'heure, Simon, ça me faisait tellement penser aux crises, justement, qu'elle explique, Thérèse, qu'en quatrième demeure, là, il y a eu vraiment une crise existentielle qui va arriver, et c'est là où tu vas te décider à suivre Dieu. Est-ce que je vais rester... Parce que dans la troisième demeure, c'est là où la plupart des chrétiens restent. Dans l'activisme. On fait beaucoup de choses, mais c'est encore mon projet. C'est ma vie personnelle, c'est moi qui décide.
Je m'engage dans la chorale de
la
paroisse.
Oui, je m'engage en chorale, je fais ci pour la paroisse. Puis c'est ça, là, c'est très bien de faire
très
ça.
Bien.
Mais dans la quatrième, il va falloir... Là, tu es confronté à tes limites, puis Dieu va te demander d'aller peut-être ailleurs, puis c'est pas là vraiment que tu avais planifié d'aller. Mm-hmm. Et là, il faut que tu laisses aller beaucoup, beaucoup de choses, puis tu es confronté à tes problèmes. Tu sais pas aimer, tu n'es pas bon dans le mariage.
Qu'est-ce qu'on entend
par
aller ailleurs? Ça peut vouloir dire quoi?
Ben, ça peut dire, mettons, moi, j'avais prévu là, d'être une grande écrivaine. T'sais. Ben, tu sais, mon éditeur m'avait demandé d'écrire tel livre, puis je me rends compte que je suis pas capable. Tous les signes dans ma vie m'amènent à voir que je n'ai pas d'affaires à écrire ça. C'est pas ça que Dieu il veut. Dieu il veut m'amener à faire mon travail, à en faire moins, mais à en faire mieux. Choisir entre deux biens. Choisir le meilleur pour Dieu. Dieu il trouve que ça va avoir plus d'allure si je me consacre à mon travail pour le Verbe Média. Donc, il va me tasser plein de petits projets, des propositions qui seraient super. Mais quand je prie, là, parce que les deux clés...
Ouais, parce que comment confondre la voix de Dieu avec la voix d'Antoine Malenfant qui dit de travailler au Verbe?
Voilà. Il y a deux clés pour monter, mais je dirais descendre plutôt dans le cœur. C'est l'oraison qu'elle appelle, c'est la vie de prière, de prier tous les jours. Minimum, ben au début, je priais 2 heures. Là. Quand j'ai connu les demeures, là, j'ai tellement capoté, je faisais oraison pendant 2 heures par jour, la durée de la sieste de mon bébé. Mais je suis rentrée dans une dimension, j'ai vécu une conversion incroyable. T'sais. Mais ça, c'était vraiment comme je passais de la troisième à la quatrième demeure. Mais après ça, il y a eu la cinquième demeure où là, c'est encore plus profond. On n'a pas le temps de tout aller en profondeur, mais où là, on surfe un peu. Ah, on a des beaux cadeaux, t'as des belles prières de cœur à cœur.
Il y a des plateaux là, dans
c'est
ça.
C'est
quand même,
c'est parce c'est que t'intègres, OK, t'intègres. Puis là, d'un coup, une crise. C'est comme l'entraînement physique. Je ne sais pas s'il y en a ici qui font du petit workout. Là. Moi, je fais mon workout à tous les matins, OK? Bien, à un moment donné, t'arrives à un plateau. C'est t'es ça. Super bon dans ton workout, tu sais. Bon, bien, il faudrait peut-être que j'augmente d'une coche, tu sais. Une petite difficulté supplémentaire, tu sais. Oh, là, je vais rusher pendant peut-être un mois sur tel exercice. Mais c'est la même chose, mais sauf que c'est sur l'ego, les défauts, les péchés, ce que nous autres, les chrétiens, on appelle péchés, mais qui sont mes défauts de caractère, mes manques affectifs, mon immaturité affective, mes mauvaises habitudes que j'avais prises, que mon mari endure. Donc, tout ça, mais en cinquième demeure, on surfe un peu, on a vraiment des belles douceurs pour affronter la sixième.
Qui est
la sixième demeure, qui est vraiment un déchirement total. Là,
C'est le Christ en croix à l'agonie?
Ça ressemble pas mal à ça parce que c'est l'orgueil. Là, c'est la maison où toutes tes petites pointes d'orgueil sont transpercées. Tu les vois. Parce que, tu sais, dans la prière, tu sais, je disais les deux clés, c'est la prière, mais l'autre clé, c'est la sanctification.
Mais donc, personne ne veut aller dans cette sixième demeure-là.
Mais oui, Brigitte. Parce que c'est bon.
Ah oui, je ne sais pas.
C'est bon parce que la grâce que tu as.
Faut souffrir pour être belle.
Exact.
Au niveau de l'âme.
C'est le même principe. Mm-hmm. Faut souffrir pour être en forme, faut que tu fasses l'exercice. Faut que tu te prives de certaines choses comme du dessert quelquefois pour être bien. Il y a des aliments qu'en vieillissant, que tu ne peux plus manger, tu ne digères plus, mais tu te sens bien. Ben avec Dieu, c'est pareil. Plus que tu vas dire « OK, Seigneur, j'accepte là où tu m'amènes », ben il va te donner les cadeaux qui vont avec, les grâces qui vont avec, puis tu vas découvrir une liberté intérieure incroyable. Puis la septième demeure, mais c'est l'apothéose, c'est l'union des volontés entre toi et Dieu, l'union mystique, les fiançailles mystiques. Donc, c'est la vie de saint qu'on est tous appelés et toutes appelées à vivre, mais dans une... Puis là, c'est en service en église, mais c'est pour Dieu que
tu
es là.
Tu veux ce que Dieu veut.
Tu veux ce que Dieu veut. Tu rouspètes à rien. Tu comprends pas tout. OK? Tu comprenais pas tout parce qu'en sixième demeure, là, Saint Jean de la Croix, il dit que c'est la nuit de l'esprit. C'est que tu comprends rien. Il t'arrive des affaires. Où c'est que tu m'amènes, Dieu? Mais il est comme une lampe, là, puis tu vois 30 cm en avant de toi, mais fais confiance. T'sais. L'obéissance devient la meilleure des vertus.
Brigitte Bédard, journaliste pour Le Verbe Média, merci beaucoup pour ce tour d'horizon des sept demeures de Sainte-Thérèse d'Avila. C'était passionnant et merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@verbe.com.
C'est déjà tout pour cette semaine. Avant de se laisser, quelques suggestions culturelles de nos chroniqueurs de cette semaine. Simon.
Alors, si vous êtes intéressé d'approfondir la pensée du philosophe Kierkegaard, je ne vous conseille pas trop n'importe quel de ses livres au hasard. Ah, c'est vraiment difficile d'accès.
Surtout que moi, je ne lis pas le danois. Là.
Ouais, c'est des grosses briques, okay. Puis c'est bien compliqué. Mais il a écrit un essai qui s'appelle « Crainte et tremblement », qui est un peu justement le résumé de sa pensée religieuse à travers la vie d'Abraham. Et toute une réflexion sur l'espérance. Et donc, ça, c'est un peu plus accessible à tous. Donc, Crainte et tremblement, ça a été republié récemment aux éditions Rivage en l'an 2000. On mettra sûrement les liens sous les réseaux Facebook et YouTube de l'émission.
Merci, Simon. Brigitte?
Eh bien, moi, je dis qu'à côté de votre Bible à la maison, il y a et du dictionnaire, évidemment. Il faut avoir le livre « Je veux voir Dieu ». Du père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui synthétise la pensée.
Un carme, lui aussi. Hein?
Qui est un carme, qui est bien heureux maintenant, qui a été. Mais qui synthétise la pensée de Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila et Sainte Thérèse de Lisieux dans un livre. C'est un peu complexe, c'est pas simple, mais c'est passionnant.
Merci beaucoup, Brigitte. Merci, Simon. Et merci, Alex Lassalle, d'avoir été avec nous exceptionnellement cette semaine. On était bien contents de te retrouver. Hein?
Plaisir partagé.
Vraiment, c'était le fun. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez réécouter cette émission en format balado, vidéo, en tout temps sur Facebook, YouTube et allez sur notre site web, leverbe.com. Tous les détails sont là. Je remercie Barthélémy Rieu et Marie Laliberté et Marianne Martin à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. T'en es pas du monde.